Donc, ce matin, on va continuer la série sur le serment sur la montagne. La semaine passée, on a fait une introduction avec la première béatitude, où est-ce qu'on avait vu « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, on verrait les sept autres béatitudes. Puis en sortant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu vas vraiment faire ça ?» Puis là, j'ai dit, je pense que oui. Puis là, quand j'ai commencé à étudier cette semaine, je vous confesse qu'on va juste en voir une encore cette semaine. Mais je pense que c'est vraiment important. Puis on verra les prochaines fois que je vais prêcher dans l'année à quelle vitesse qu'on va aller. Mais je trouve que c'est tellement important. Puis c'est tellement édifiant aussi pour moi d'étudier le passage, mais de le partager avec vous ce matin. Donc, un petit rappel. Sur la semaine passée, puis si vous n'étiez pas là, je pense que le petit rappel que je vais faire va pouvoir un peu nous vous replonger là-dedans. Donc, les béatitudes, donc c'est tous ces passages dans Matthieu 5 qui nous dit « heureux », donc qui décrit les personnes qui sont heureuses. Et encore une fois, on voit que Jésus s'adresse pour... c'est le premier discours de Jésus dans Matthieu, où ce que Jésus fait un peu comme le début, là, il va montrer aux gens « voici à quoi ressemble le royaume, voici à quoi ressemble la vie que je vous apporte ». Et là, dans l'introduction de ce discours-là, il va parler des personnes qui sont heureuses. Donc, les béatitudes nous rappellent qui nous sommes quand nous appartenons à Jésus, quand nous avons une relation avec Jésus. Ils nous rappellent c'est quoi la vraie joie. Les béatitudes nous préparent, elles nous rappellent comment nous pouvons vivre la vie que Jésus nous demande de vivre. Ils nous rappellent ce que nous devons chercher pleinement de tout notre cœur et ce qui nous motive à le chercher. Donc, c'est ce qui nous permet d'observer quand Jésus va dire à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus s'adresse pour la dernière fois justement à ses disciples, et là, il leur dit « Allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, les béatitudes, c'est ça qui va nous permettre, quand on comprend ce discours-là, d'observer tout ce que Jésus nous a prescrit ou ce qu'il va nous prescrire dans les prochains passages, juste dans le sermon, le discours sur la montagne. Et j'ai trouvé une citation cette semaine qui peut nous aider à récapituler tout ça. Le sermon nous démontre à quoi devrait ressembler la vie de celui qui a un cœur, qui a été éprouvé et transformé par l'évangile de la grâce. Et ce, tout en mettant en évidence, le sermon met en évidence la véritable nature des normes de justice de Dieu. Des normes élevées qui nous démontrent que notre position auprès de Dieu dépend directement de la grâce de celui qui nous les dicte. Et c'est ce qu'on veut continuer à regarder ce matin. Et j'aimerais vous partager une petite anecdote, une petite histoire pour nous mettre en introduction du message. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui faites de la course à pied, du jogging. Je sais que tantôt, là, je parlais avec Adélaïde qui m'a dit qu'elle a fait son premier 10 km cette semaine. Donc, je connais quelques personnes d'entre vous qui font du jogging. Moi, je fais du jogging régulièrement, peut-être depuis 3 ans. Et puis, l'hiver passé, le vendredi soir, on a la jeunesse. Puis, il y a une couple de gars de la jeunesse, des leaders après la jeunesse. Ils s'en vont jouer au hockey. Puis, j'ai joué un peu au hockey. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, probablement l'année passée, il y a un an, je m'entraînais pour un demi-marathon, puis il a dit « Hey, tu viens-tu jouer au hockey ce soir? » Puis là, j'ai dit « Ah, je ne peux pas, je m'en vais courir de bonne heure demain matin. » Puis là, il m'a regardé vraiment perplexe, puis il y avait comme cette discussion-là, comme « Gars, nous, on s'en va jouer au hockey. On ne peut pas dire « Tu t'en vas jouer à faire de la course. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, dire « Moi, je m'en vais jouer à faire de la course. » Nous, on s'en va avoir du fun, puis toi, tu dis non, parce que demain matin, tu vas te lever à 5 heures pour aller courir. Puis quand on regarde le jogging, quand je réfléchis en tout cas à ma relation avec le jogging, je sais qu'il y en a, j'ai écouté des documentaires, j'ai écouté du monde, qui parlent du jogging comme c'est super le fun pour eux autres. Ils vont courir, besoin d'aucune motivation pour aller courir. Mais la plupart des gens qui courent, en tout cas pour moi, quand je cours, si tu me demandes, est-ce que j'aime le jogging? En ce moment, je ne suis pas en train de jogger, je vais te dire oui. Mais quand je suis rendu au 18e kilomètre d'un demi-marathon, là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? À tous les fois. Puis quand que je cours souvent, c'est comme, aïe, c'est vraiment désagréable, puis je me demande. Puis là, c'est arrivé encore cette semaine, tu cours, tu es découragé, tu as plein de pensées qui disent, même, tu pourrais être en train de dormir, tu pourrais être en train de faire ci, tu pourrais être en train de faire ça, puis là, tu es en train de courir. Mais pratiquement à chaque fois que je finis une course, où est-ce que je me dis ça? Ou quand que je fais, par exemple, un demi-marathon, une course organisée, ou que je cours tout seul le matin de bonne heure, Pratiquement à chaque fois que je termine, il y a comme une joie indescriptible d'avoir réussi l'objectif. C'est comme, wow, tu sais, là, la prochaine fois, je vais aller plus loin, puis je vais en faire plus, puis là, je me remets à dire comment que j'aime le jogging, puis... Puis quand on peut... donc, si quelqu'un arrive et me dit, est-ce que c'est le fun, le jogging? Est-ce que je vais avoir du plaisir à faire ça? Est-ce que ça va être facile? Ça serait un peu drôle de ma part de lui dire, ah ouais, man, tu vas aimer ça, c'est l'exercice qui va te procurer du bonheur en tout temps. Puis tu n'auras jamais de problème. Tu ne trouveras jamais ça difficile, puis tu vas avoir du bonheur. Mais ultimement, quand on en parle, oui, j'aime ça. J'aime ça pour toutes sortes de raisons. J'aime ça pour les résultats, j'aime ça pour l'énergie que ça me procure, j'aime ça pour les gens avec qui je peux aller courir. J'aime ça parce que je suis quelqu'un que j'ai toujours voulu me donner des objectifs, puis ça me permet d'un côté sportif, physique, de surpasser mes objectifs. Mais je ne suis pas toujours 100% dans la joie quand je fais le jogging. Et... quand on va regarder ce matin la béatitude qu'on va regarder, il faut qu'on se dise... Je trouve que les béatitudes, et spécialement celles qu'on va voir ce matin, nous apportent ce réalisme libérateur à propos de la vie qui nous permet de rechercher la réalité du royaume de tout notre cœur. Si quelqu'un s'attendait que le jogging, c'est le fun tout le temps, c'est garanti que cette personne-là ne va pas continuer là-dedans, elle va aller faire d'autres choses. Puis c'est correct si vous n'aimez pas ça pendant tout, puis vous faites d'autres choses. Mais c'est juste, c'est une illustration pour nous montrer que quand on dit ce que t'aimes quelque chose, est-ce que ça te procure du bien, est-ce que ça fait du bien, bien, dire oui à ça, ce n'est pas toujours synonyme que 100% du temps, on peut dire que ça va bien. Et c'est vraiment ce que faut se rappeler quand on regarde la question du bonheur et de dire heureux. Jésus qui dit 8 fois dans ce passage-là, « Heureux ceux qui... » Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'espère que ce matin, on peut regarder avoir un regard réaliste sur ce que Jésus nous propose puis sur nos attentes par rapport à notre vie avec Jésus. Donc, la semaine passée, on a vu que la première chose qui caractérise une personne qui a une relation avec Dieu, c'est le fait que nous reconnaissons qu'on a besoin de lui. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que ça nous permet de faire quand on reconnaît tout ce qu'on a besoin, quand on reconnaît tout le monde ensemble qu'on a besoin de Jésus? Bien, entre autres, ça nous permet de parler des choses qui ne vont pas. On a le droit de parler que ça ne va pas bien. Ça nous permet d'adresser nos luttes, nos péchés, nos faiblesses. Ça nous permet de laisser les autres nous accompagner, puis de nous laisser se challenger, se mettre au défi les uns les autres à obéir et à se repentir. Parce que quand je reconnais mon besoin, que j'ai besoin d'aide, je n'ai plus besoin de cacher qu'en réalité, je ne suis pas fort comme je voudrais être. Je n'ai pas besoin de le faire croire aux autres. Ça me permet de dire que je ne suis pas parfait, puis que toi et moi, on est pareil, on est identique, on a tous besoin des uns des autres, puis on a besoin de Dieu. Et la deuxième béatitude qu'on va regarder ce matin, et comme je disais, pas les 7 autres, comme j'avais dit la semaine passée, nous enseigne ce que produit notre réalisation qu'on a besoin de Dieu. Et si vous voulez, on va relire les 4 premiers versets de Matthieu 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Donc, ce matin, on voit que ce que produit notre réalisation qu'on a besoin de Jésus, c'est qu'on va être triste. Et ce matin, n'oublions pas que le sermon nous parle de personnes heureuses. Puis il me semble que là, il semble avoir une contradiction. La personne qui admet sa pauvreté spirituelle est celle qui pleure. Et cette personne-là, c'est la personne qui est heureuse. Donc, j'espère que vous restez jusqu'à la fin. Puis qu'avant de partir ce matin, on ne voit pas de contradiction dans ces paroles. Donc, triste de quoi? De quoi est triste la personne qui est heureuse? Heureuse la personne heureux ceux qui pleurent. De quoi est triste cette personne-là? De quoi pleure cette personne-là? Et ce qu'on voit, c'est que Jésus est en train d'adresser le royaume, à quoi ressemble le royaume, et on voit toutes sortes de, comme on a vu la semaine passée, des passages qui parlent des commandements, des choses, des attentes que Jésus a, des standards de Dieu. Il nous parle de notre besoin de lui. Donc, quand on parle de la tristesse que dans nos vies, qui fait qu'on est une personne heureuse, puis heureuse aussi parce qu'on va être consolé, on va voir ça, c'est la réalité du péché dans nos vies et dans le monde autour de nous. Dans le psaume 119, 136, on peut lire « Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. » C'est une tristesse de voir quand que le péché est en train de prendre le dessus, quand que on est affecté par le péché, par les luttes dans nos vies, puis qu'on n'est pas capable d'honorer les commandements de Dieu. C'est une tristesse de voir autour de nous que les commandements de Dieu ne sont pas respectés. Paul va dire dans 2 Corinthiens, « Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, à vous repentir. Car vous avez été attristé selon Dieu. Si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part, en effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc le point que j'ai apporté avec ce passage, encore une fois, c'est qu'on entend que de la tristesse selon Dieu produit la repentance. Donc c'est cette réalisation-là du péché dans nos vies. C'est ce désir-là, c'est de voir que le péché affecte nos vies, notre péché, le péché des autres, notre péché affecte les autres aussi, puis que dans le monde, il y a cette souffrance qui est là, à cause du péché. Et c'est de cette tristesse-là que l'on parle ce matin. Et cette phrase-là, c'est une des phrases les plus réalistes qui soit. Quand que je vois ça, on peut être ici ce matin et dire, « Moi, je suis une personne heureuse, je ne suis pas une personne triste. » Peut-être que c'est vrai qu'en ce moment, tu n'es pas une personne triste. Mais quand on parle de souffrance, de gens, de relations brisées, quand on parle de drames dans nos vies, de malentendus ou de toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, je pense que tout le monde, on est dans le même bateau de dire qu'à un moment donné ou dans un autre, la vie ne va pas comme on aimerait qu'elle aille. La vie ne va pas selon les plans que nous, on avait faits. Certainement, on se dit, il me semble que ça ne devrait pas être comme ça. Et si on est ici ce matin, chacun d'entre nous, puis qu'on se rend compte que oui, j'ai besoin de Dieu, puis je ne suis pas justement cette personne-là qui a besoin d'être forte et parfaite. Je suis capable d'admettre et je peux admettre ma faiblesse et le fait que dans ma vie, je suis affecté par le péché, soit le mien ou celui des autres. Et cette tristesse-là, c'est une marque que on ne veut pas ça. C'est pas ce que l'on veut. C'est pas ce que l'on désire. Et c'est réaliste parce que c'est impossible de regarder ça et de dire non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ma vie fonctionne. Et comme on voit, c'est que le royaume de Dieu, ce que Jésus nous enseigne, c'est pas un royaume qui nous promet une joie, un high spirituel constamment. Le royaume puis la vie, c'est pas la fin d'une course à chaque fois, à chaque seconde qui soit. Et c'est important de ne pas se faire de faux espoirs si tu es ici ce matin et que tu considères le christianisme et que tu considères qu'est-ce que Jésus veut t'apporter ou ce que Jésus veut faire dans ta vie. Et même nous, chacun d'entre nous qui connaissons Jésus, qui marchons avec Jésus depuis peut-être plusieurs années, c'est important de pas se faire de faux espoirs ou d'arrêter de se faire de faux espoirs que la tristesse, la souffrance, le bonheur ultime ici sur la terre, constant, devrait toujours être la réalité. C'est impossible que ça se produise aujourd'hui. Et c'est pas le bonheur, la joie que Jésus nous promet. Mais ce que Jésus est en train de dire, quand il dit « vous allez être consolés », c'est que malgré la souffrance, malgré la tristesse, malgré le péché, si tu reconnais que tu as besoin de moi, moi je vais prendre soin de toi et je vais t'accompagner. Et c'est dans cela que le chrétien va trouver sa joie. Ce qu'on voit ce matin, c'est une consolation, une joie durable qui ne peut pas être déterminée par nos circonstances. Quand on y pense, quand on dit qu'on veut être heureux, chacun d'entre nous, on peut dire « oui, je veux être heureux ». Quand on dit qu'on veut être heureux, chacun d'entre nous, une des choses qu'on dit, moi le premier, ce qu'on est en train de dire, c'est « je ne veux pas souffrir ». Je ne veux pas vivre de souffrance. Ou je ne veux pas vivre la souffrance des autres. Je suis tanné que les autres me font subir ma souffrance. On peut le voir de plusieurs angles, mais on ne veut pas souffrir, on n'aime pas souffrir. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Une fois, je parlais avec quelqu'un, puis je lui parlais d'une situation, puis la personne m'a dit, « Toi, tu n'aimes vraiment pas ça souffrir, Dominique. » Puis c'était comme, tu sais, ça sonne un peu comme, « Ben oui, qui veut souffrir? » Mais c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé que tout ce que je disais, c'était moi qui essayais de rationaliser ma vie pour ne pas être en train de souffrir puis juste me débarrasser de la souffrance. Alors, dans ces moments-là, la question, c'est où est-ce qu'on va chercher notre consolation? Dans quoi est-ce que je me lance pour ne pas souffrir? Et il y a plein de choses qui sont bonnes pour atténuer la souffrance, pour cacher la souffrance, pour mettre la souffrance de côté pour un temps. Et la question que je nous pose ce matin, et je pense que ce qui est le challenge que Jésus il nous lance en nous partageant l'Évangile, c'est est-ce qu'aucune de ces choses-là, est-ce qu'une seule de ces choses-là a complètement enlevé ta souffrance et t'a rendu heureuse et satisfaite? Et c'est une bonne question qu'on doit se poser quand on regarde nos vies, quand on regarde la souffrance. Dans quoi est-ce que j'ai tendance à me lancer quand ça ne va pas bien? Qu'est-ce que j'ai tendance à éviter quand ça ne va pas bien? Où est-ce que je vais trouver ma consolation? Et je sais que je pourrais donner plein d'exemples ici, mais en même temps, on est tous uniques et différents, et je sais que chacun d'entre nous, on est capable de se poser cette question-là, et on voit là où on va chercher cette consolation. J'aimerais vous lire une citation de Tim Keller, qui nous dit « Nous devons insister sur cette vérité. » Il parle entre autres de la souffrance, vous allez voir. « Car il y a certaines personnes dont la notion et la conception de la vie chrétienne rendent le chrétien peu naturel. Le chagrin et la peine sont des choses que le chrétien peut vivre. Et l'absence de sentiment ou de peine n'est pas naturelle. » Ça dépasse le Nouveau Testament. Ça provient davantage d'un état stoïque et psychologique produit par un culte, pas du christianisme. Le chrétien a quelque chose qui lui permet de s'élever au-dessus de ces choses. Mais la gloire de la vie chrétienne est que tu t'élèves au-dessus de ces choses, mais tu les ressens, tu les vis. Ce n'est pas une absence de sentiment. C'est une ligne, et c'est une ligne de démarcation très importante. Donc, ce que l'on recherche ce matin quand on regarde la réalité du royaume, c'est un peu pour ça aussi qu'au début, j'ai parlé de mon exemple de jogging, c'est de se poser la question, est-ce que je vis la souffrance? Est-ce que je lutte avec le péché dans ma vie? Est-ce que je vis le découragement? Est-ce que je vis parfois cette... pardon. Ce désir d'abandonner parce que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à plaire à Dieu, à plaire au standard de Dieu. Et comme on a vu la semaine passée, quand on sent comme ça, tout ce que Dieu nous dit, c'est « Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de moi, car le royaume des cieux leur appartient. » Mais maintenant, est-ce que quand on regarde ce découragement-là, le réalisme du royaume, de dire « Heureux ceux qui pleurent, qui n'aiment pas le péché, qui pleurent sur... le, à cause du péché. Heureux sont-ils ces personnes-là? » C'est en train de dire, vous allez ressentir la tristesse, vous allez ressentir les sentiments de la souffrance. Mais si on peut vous dire heureux, c'est parce que vous savez qu'il y a plus que ça. C'est parce que vous avez un espoir qui est plus grand que ça. C'est parce que vous avez trouvé votre consolation en Jésus. Dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection et dans la promesse qu'un jour il va nous libérer complètement de ce corps de souffrance. Donc, de reconnaître ma pauvreté spirituelle produit une tristesse qui est salutaire. Parce que ça me permet de voir le péché dans ma vie puis d'être insatisfait et de ne pas vouloir que ça persiste. Ça me permet de voir les gens que j'aime et de vouloir qu'ils puissent grandir. Ça me permet de voir toutes les injustices dans le monde puis de dire non, ça, c'est pas comme ça que ça devrait être et je veux contribuer à la façon que Dieu me met à cœur, à ma façon, à ce que ça soit plus comme ça. Ça nous permet de rechercher, comme on voit dans tout le reste du discours sur la montagne, de rechercher, de désirer, ressembler à notre Dieu qui est parfait et sans péché. Si ça créait en nous une indifférence, un genre de je m'en foutisme, on ne pourrait pas rechercher ce que Dieu nous demande de rechercher. Ça nous permet de voir l'impact du péché dans le monde aussi. Et on peut voir que la tristesse de Jésus lui-même dans la Bible, dans Jean 11, 35, un passage où est-ce que Jésus va ressusciter son ami Lazare. On a le verset le plus court de la Bible où est-ce qu'on peut lire « Jésus pleura ». Et dans ce contexte-là, quand on dit, on voit Jésus qui regarde et qui pleure. Jésus pleure pas parce qu'il est désemparé et il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, Jésus sait qu'il s'en va libérer, ressusciter Lazare, qu'il va même vaincre la mort ici. Et Jésus sait que même ultimement, il va vaincre la mort de façon ultime. Mais même devant cette connaissance-là, Jésus voit la mort, Jésus voit la détresse, Jésus voit l'incrédulité et Jésus pleure. Parce qu'à ce moment-là, il voit le règne du mal. Et il ne faut pas oublier que le péché, c'est cet ennemi que Dieu est venu vaincre à la croix. Et Jésus est là, puis devant cette réalisation-là, devant de voir ce que le péché est en train de faire, que le péché a amené la mort dans le monde, que le péché amène la consternation, l'incrédulité, comme je disais, des gens et tout, Jésus est là, puis Jésus se met à pleurer. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus pleure sur cette ville. Parce que Jérusalem n'est pas reconnue comme la ville qui amène la paix. Jésus pleure devant le péché, devant ce qui est mal, et désire voir ça être transformé. Et c'est ce qu'il va faire ultimement à la croix. En vainquant la mort, Jésus vient donner de l'espoir. Jésus vient nous donner une raison de se réjouir. Il vient changer le deuil en joie, la défaite en victoire, le désespoir en espoir, la mort à la vie, la perdition en une destination éternelle remplie de joie. Jésus est notre espoir ultime. Donc la consolation dans la tristesse, comme on voit ici dans Matthieu 4, la consolation dans la tristesse est impossible sans Jésus. C'est une tristesse qui nous ramène à la consolation, à une consolation qui nous rappelle constamment qui est Jésus, ce qu'il fait pour nous. Et la beauté de l'Évangile, c'est qu'on est consolé. On est consolé par le Dieu Saint le Dieu Saint que nous avons offensé. On est consolé par le Dieu Saint qu'on a offensé. C'est lui-même qui est venu à nous, qui est mort pour nous. Il est mort pourquoi? Parce qu'on l'avait offensé, parce qu'on s'était détourné de lui, parce que l'humanité s'était détournée de Dieu. Et c'est ce Dieu qui nous aime qui vient nous dire, « Heureux si tu pleures parce que tu vas être consolé par moi. » C'est Jésus qui a subi les douleurs, la souffrance de la croix pour nos souffrances, pour que nos tristesses soient enlevées. Un passage dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, nous parle de Jésus, nous parle de Jésus qui va aller à la croix. Le verset 3 nous dit, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on tourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et c'est ce Jésus qui dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Alors, la question que j'ai posée plus tôt, c'est dans quoi est-ce qu'on se lance pour avoir notre consolation? C'est une question que je vous lance ce matin pour que vous puissiez réfléchir aussi en sortant d'ici. Et de se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça qui me donne vraiment ce que mon cœur désire? Et est-ce que je fais confiance que Jésus qui me fait cette promesse-là, que je vais être consolé, si je me tourne vers lui, il va me consoler? Est-ce que j'ai cette confiance-là? Quelle consolation est plus grande que celle que Jésus veut t'apporter maintenant, qui va durer pour toujours? Et c'est certainement cette tristesse pour le péché, cette consolation que Jésus nous apporte, qui va nous donner cette motivation pour obéir à Jésus dans tout ce qu'il va nous demander. Pas qu'une fois qu'on a saisi ça, puis qu'on va le saisir 100% tout de suite, puis on va obéir à tout jamais. On l'a dit la semaine passée. C'est faux, parce qu'on doit constamment reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Et on va, mais c'est l'attitude qu'on a besoin pour grandir. Et on va grandir. Et c'est l'attitude qu'on a besoin pour désirer obéir à la loi de Jésus. Il y a plusieurs films qu'on regarde ou des situations dans l'histoire où est-ce qu'un peuple ou un groupe va se rebeller contre son roi ou contre son maître parce que le roi était comme vraiment trop dur sur le peuple. Et à un moment donné, on va se dire, ben, tant qu'à être asservi, puis plus pouvoir manger, puis plus avoir rien, on est mieux de se rebeller parce qu'il ne nous donne rien, c'est un mauvais roi. Puis là, tu te dis, en écoutant ces films-là ou ces faits historiques-là, tu te dis, peut-être que s'il en avait juste donné un petit peu plus, le peuple aurait resté tranquille, puis ça ne serait jamais élevé contre lui, tu sais. Puis là, il voulait tout garder pour lui. Puis quand je regarde le royaume que Jésus est en train de nous donner, certainement que les demandes de Jésus sont difficiles. Puis comme on a vu la semaine passée, quand on a regardé les différents passages du sermon sur la montagne, on s'est dit, aïe, il y a des choses là-dedans qui sont décourageantes que peut-être qu'aujourd'hui je suis incapable de faire ou que j'ai vraiment de la difficulté à faire. Puis il me semble que les demandes de Jésus, les exigences de Jésus sont difficiles. Mais encore une fois, Jésus commence son discours en nous parlant de l'attitude et de la motivation qu'il va nous donner, le désir non pas de renverser ou d'abandonner notre roi, mais qui va faire qu'on va vouloir persévérer et qu'on va vouloir grandir sous le règne et l'obéissance de ce roi-là. Et c'est quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, et c'est quand on est consolé par lui, à cause qu'on reconnaît, à cause qu'on vit cette tristesse-là, ce dédain-là du péché dans nos vies et dans la vie des autres. Donc, c'est une réflexion ce matin qu'on peut avoir sur, encore une fois, sur notre soumission à notre roi, à Jésus. S'il est ton sauveur aujourd'hui, ou si c'est quelqu'un que tu es ici ce matin, tu es en train de découvrir. Est-ce que tu as besoin de lui? En quoi est-ce que tu as besoin de lui? Et quel péché en ce moment dans ta vie t'attriste? Et une question que je n'ai pas posée, mais que je pourrais te poser présentement, quand on parle de découragement, des fois dans le péché, on peut être attristé puis avoir cette tendance-là à se dire, Dieu, il ne veut rien savoir de moi, ou je ne peux pas aller à Dieu avec ça, je ne suis pas assez digne pour que Dieu me pardonne, ou je ne suis pas assez digne pour en parler aux autres, à l'église, que mes amis, mes frères et sœurs, que je ne suis pas assez digne. Je ne peux pas en parler. S'il y a un péché ce matin, s'il y a une réalité dans ta vie ce matin avec laquelle tu luttes, puis que tu es là, puis tu dis, ça m'attriste, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Rappelle-toi que Jésus dit dans ce passage-là que tu vas être consolé. Pour être consolé, ça veut dire que tu peux aller dans les bras de Jésus, puis il va te consoler. Il ne va pas te repousser, te rejeter, te dire non, reviens quand tu vas être plus digne. Reviens quand ça va faire assez longtemps que tu te sens mal. Reviens quand ça va faire une semaine que tu ne l'as pas fait. Au contraire, viens à moi, reconnais que tu as besoin de moi, je vais te consoler. Donc, de se sentir attristé par le péché, ça nous mène dans une direction qui est la grâce et qui est l'amour de Jésus. Et je t'encourage à considérer cette direction-là. Ce matin, je vais prier bientôt en terminant. Et une prière que je te donne, que tu peux faire, une requête que tu peux faire à Jésus, c'est « Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu me demandes de faire ce matin? Comment est-ce que tu m'appelles à me soumettre à toi? Quelle tristesse dans ton cœur pour quelque chose qui est en train de se produire, peut-être dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans le monde en général, que Dieu est en train de dire « Moi, je veux que tu réagisses ici » et que tu participes à ça, que tu participes à aider ou à aider cette personne-là à grandir, que tu participes à aller changer ces choses-là, ou que tu participes dans ton propre cœur à te réconcilier avec moi, puis que tu confesses ton péché et que tu viennes à moi, que tu continues à grandir et à persévérer. Qu'est-ce que Jésus te demande ce matin? Pardon, la réconciliation, un changement d'attitude. Et comme je vous dis, je vous encourage constamment à ne pas garder ça tout seul pour vous et d'en parler avec un frère, une sœur, quelqu'un dans votre groupe maison, dans votre groupe connexion, quelqu'un de proche de vous dans l'Église avec qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez persévérer dans ces choses-là. Alors, on va prier en terminant. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est tellement grand que tu ne nous laisses pas seuls, que tu nous que tu sentes nos regards vers toi ce matin et que tu nous dis à quel point, toi aussi tu n'aimes pas le péché et tu désires sa destruction, Seigneur Dieu. Tu désires sa destruction dans nos vies et c'est pour cette raison que tu es venu mourir à la croix pour nous. Et tu veux nous prendre tels que nous sommes ce matin et nous dire, reconnais premièrement que tu as besoin de moi. Viens confesser, viens être consolé. Et je vais le faire. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer à nous faire grandir dans cet amour, ce désir de te connaître, de t'obéir, de faire le bien que tu nous demandes de faire. Et qu'on puisse continuer à... Notre chemin, ensemble, tous en reconnaissant les uns les autres, qu'on a besoin de toi et qu'on a besoin des autres. Qu'on n'est pas ici dans un endroit où est-ce que où on ne peut pas partager ces choses-là, mais au contraire. Mes frères et sœurs sont ici pour m'aider à grandir en toi. Je veux te remercier pour ça, Seigneur Jésus. Continue à faire grandir cette Église dans cette direction. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.